vous les comprendre?
Oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps.
Donnez-moi la force de comprendre, car c'est vision la seule.
Martin Carly. Officiellement, on va se parler des sacs de plastique que l'on a retrouvés au fond de la fosse de Mariana.
Oui, absolument. On parle de fosse de Mariana pour placer tout le monde. Il faut savoir que c'est une fosse océanique, donc c'est une tranchée qui est au fond de l'océan. On parle dans une partie de l'océan Pacifique, ici. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que c'est considéré comme l'endroit le plus profond de la croûte terrestre. Donc là où ça va le plus creux, essentiellement. Pour vous donner une idée, le point le plus bas connu dans cette fosse-là se situerait entre 10 900 et 11 000 mètres de profondeur. Imagine, c'est extrêmement profond. Et pour cette raison-là, bien, il y a eu plusieurs expéditions avec des engins de toutes sorte des engins téléguidés et tout ça pour aller plonger dans cette fosse, pour essayer d'aller voir ben, comment ça se passe, est-ce qu'il y a de la vie là-dedans et quels sont les êtres vivants là-bas et tout ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire
c'est au large des îles Mariannes.
Oui, exactement. C'est pour ça qu'on dit la fosse Marianne, la fosse des Mariannes. Exactement. Donc, pourquoi, sachant tout ça, il faut donc savoir qu'on a plein de photos d'archives de ce qui a été observé dans cette fosse-là depuis 1983. Et justement, une agence japonaise, de concert avec les Nations Unies, ont décidé de faire l'inventaire de ces photos d'archives qu'on a depuis donc presque 40 ans maintenant, pour voir qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on peut y répertorier. Eh bien là, justement, malheureusement, puis ça c'est un très très gros malheureusement, on y voit des sacs de plastique intacts carrément au fond de l'endroit le plus profond de nos océans. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour différentes raisons. Première raison pour laquelle ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est que ça, là, ces photos-là ont été prises il y a déjà un certain temps. Je vous rappelle qu'on parle d'archives qui datent de 1983. Donc, ça veut dire ces sacs de plastique-là ont été pris en photo au cours des 40 dernières années. C'est pas un sac qui a été jeté la semaine passée dans l'océan qui s'est retrouvé là. Donc, la situation réelle et actuelle pourrait être bien pire que ça. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est pas une bonne nouvelle parce que au fond des océans, donc là, on est au plus profond, là, il y a beaucoup moins d'êtres vivants parce qu'il y en a beaucoup moins qui sont adaptés à la vie à une profondeur aussi grande que ça. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que ces quelques êtres vivants-là qui sont au fond des océans ont un rôle encore plus important à y jouer dans la chaîne alimentaire, dans l'écosystème qu'on retrouve au fond. Parce que ces écosystèmes-là, comme ils sont dans des conditions plus difficiles, eh bien, ils sont encore plus fragiles. Donc, une petite modification de ces écosystèmes-là peut avoir des conséquences encore plus grandes que ce qu'on pourrait observer plus près de la surface de l'océan. Donc, c'est une autre mauvaise nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on y a vu lorsqu'on fait l'inventaire de tout ça, pas rien qu'un sac de plastique? Sur les photos prises lors des plus de 5000 plongées faites par des engins téléguidés et tout ça au fond de cette fosse-là, eh bien, on peut voir sur ces photos-là plus de 3425 débris. Et parmi ces débris-là, il y en a le tiers qui sont des débris macro, donc qui dépassent une certaine taille et qu'on peut reconnaître, par exemple, comme le sac de plastique, un morceau, une bouteille de plastique ou ainsi de suite. Et 89% de ces débris-là sont à usage unique. Donc, c'est des affaires comme des sacs d'épicerie. Tu l'utilises une fois pour amener tes choses à la maison puis t'as jeté ça quelque part, ou une bouteille d'eau, t'as pris de l'eau, tu l'as bu. Souvent, on finit même pas les bouteilles d'eau, mais
ce que je comprends pas, c'est que je comprends que les éléments sont pas statiques là, dans leur espace, puis ils voyagent, mais comment, t'es au large, t'es au milieu de nulle part, là.
Oui, mais t'es au milieu de nulle part. Mais il faut savoir, par contre, que la plupart de ces débris-là viennent pas nécessairement de l'océan eux-mêmes. Ça peut être aussi simple que toi, t'as laissé tomber ça dans la rue, c'est passé par le système des égouts, ça passe par le système de rivières, fleuves, et ainsi de suite, et ça se retrouve dans l'océan.
Le courant l'amène avec le temps.
Exactement, c'est ça qui se passe, là. C'est pas... Donc, quand on pose un mauvais geste, même ici en ville, ça peut avoir des répercussions jusqu'au fond des océans, parce que tout ça est connecté. C'est pas isolé du reste de la Terre. Ce qui est encore plus inquiétant là-dedans, c'est que dans toutes ces photos-là, on voit justement que dans 124 de ces photos-là, qu'il y a des animaux qui interagissent avec les débris et que dans certains cas, ces animaux qui interagissent sont même parfois prisonniers de ces débris-là qu'on peut observer carrément au fond de l'océan. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle. Surtout qu'on estime présentement qu'on ne connaît que 5% de nos océans. T'sais, de réussir à explorer le fond de tous les océans. Là. C'est un exploit technique absolument gigantesque. C'est vraiment pas facile à faire. Donc, c'est un très, très grand défi. Et là, c'est très important, encore plus maintenant dans la situation de la pollution, de pouvoir explorer le fond des océans le plus vite possible.
Il y a un débat qui fait rage. Visiblement, l'Irlande va amender ses règles sur l'avortement. Oui. Là, le référendum devrait être gagné normalement par les gens qui veulent. Une abrogation qui s'est faite depuis 83 dans la Constitution là-bas, qui amène 3 000 à 5 000 femmes à quitter vers d'autres pays européens pour avoir droit à l'avortement. Et il y a toujours des groupes aux États-Unis, on le voit beaucoup plus.
Beaucoup.
Ici, on le voit encore un petit peu au Canada, mais beaucoup plus aux États-Unis. Des groupes pro-vie.
Oui.
Qui entretiennent certains mythes sur l'avortement.
Tout à fait, et qui manifestent avec des pancartes à l'extérieur de plusieurs cliniques. On voit ça beaucoup, effectivement, aux États-Unis. Ça varie selon les États, bien entendu. Mais un des mythes qui est véhiculé par rapport à l'avortement, c'est le fait que le fait de se faire avorter augmente les risques de se suicider. Donc, l'argument, c'est que si tu te fais avorter, tu as plus de chances de te suicider par la suite, donc d'avoir des pensées suicidaires, d'avoir des idées noires et tout ça. Bon. Et ça, c'est donc un des arguments des pro-vie, de dire en plus de se débarrasser d'un être vivant et tout ça, que c'est un meurtre et tout, ben qu'en plus, la femme risque de se suicider par la suite. Ça fait partie de l'éventail ou du coffre à outils des arguments. Eh bien, c'est un mythe, mon cher Mathieu, c'est carrément un mythe. Il n'y a aucun lien de cause à effet entre la possibilité de faire une interruption de grossesse et de se suicider par la suite. Et ça, justement, c'est une étude de 5 ans qui a été menée et publié cette semaine dans le American Journal of Psychiatry, donc des psychiatres américains, qui ont suivi près de 1000 femmes qui ont consulté une trentaine de cliniques aux États-Unis, donc des cliniques qui font ces interruptions volontaires de grossesse, ces IVG. Et parmi ces femmes-là, eh bien, il y en a 231 qui ont été, dont on a refusé l'accès à la clinique. Donc, on dit non, vous n'êtes pas dans les bonnes conditions pour vous faire avorter ici. Il y en a 273 qui se sont fait avorter lors du premier trimestre de leur grossesse. Et il y en a 452 qui se sont fait avorter plus tard au cours de leur grossesse. Donc, on a un bon échantillon ici qui est pas mal meilleur, ça je le mentionne avant de vous donner les résultats, que ce qu'on avait avant et qui menait peut-être à ce mythe-là. Parce que ce qu'on avait avant, c'était on comparait des femmes qui n'ont jamais même envisagé se faire avorter avec des femmes qui sont passées par les cliniques d'avortement. Il y a pas mal de nuances entre ces deux groupes de femmes-là. Là, si on veut faire une comparaison qui a plus d'allure, il y a pas mal de nuances, ce qui a été fait dans cette étude-là. Alors, toutes ces femmes-là ont été contactées une semaine après leur visite de la clinique, qu'elles aient été refusées ou qu'elles ont continué dans le processus de l'avortement. Et elles ont aussi été contactées à tous les 6 mois pendant 5 ans. Et à chaque fois, les femmes devaient remplir un questionnaire. Donc, on est vraiment ici dans de l'évaluation psychiatrique. Donc, les femmes devaient remplir un questionnaire qui incluait notamment des questions sur des pensées suicidaires qui pouvaient leur passer par la tête. Alors, c'est quoi les conclusions? Eh bien, une semaine après avoir fait l'interruption de grossesse, donc les femmes une semaine après avoir visité la clinique, le taux de pensées suicidaires chez ces femmes-là est à 1,9%. Donc, il y a 1,9% des femmes qui peuvent avoir des pensées suicidaires, ce qui, comparé à celles qui ont été carrément revirées de bord, donc non, vous n'avez pas à faire cette interruption-là, c'était 1,3%. Donc, 1,9%, 1,3%, on n'a aucune différence significative ici entre ces deux groupes-là, de 1. Et 5 ans après, 5 ans après avoir consulté ces cliniques-là, eh bien, le taux de pensée suicidaire a diminué à un point tel qu'il n'y avait, là, on parle même plus d'aucune différence significative, il n'y avait aucune différence point. Okay. C'était exactement le même pourcentage entre celles qui sont passées par la clinique et les autres. Donc, il n'y a aucun fondement scientifique pour justifier de telles lois parce que, je le rappelle, dans une douzaine d'États aux États-Unis, on force les médecins à informer les patientes qui veulent passer par une interruption de grossesse qu'il est possible qu'elles aient des pensées suicidaires après.
Et ça, c'est décrié par un paquet de médecins qui disent, c'est écoute, clair, on n'a même pas... Il faut informer les gens sur des choses qui n'ont même pas de fondement scientifique.
Imagine. Donc, c'est pour ça que des fois, tu te dis, OK, fait que c'est pas toujours l'avis scientifique qui est retenu lorsqu'on passe des lois. Ça, c'est un bel exemple ici. aussi. Et on va se le dire, ouais. Là, c'est à décrier. Pourquoi? Parce que c'est un obstacle de plus que tu mets sur la route d'une femme qui est déjà, je pense pas, je n'en suis pas une, je suis pas passé par là de toute évidence, mais tu sais, de lui dire en plus, et en passant, après, tu risques d'avoir le goût de te suicider. Tu sais, c'est pas un obstacle fun à mettre dans le processus.
Il y a eu des reportages aux États-Unis en lien avec la façon dont on va financer les cliniques, on dit, de planification de grossesse, ou ouais. Dans certaines de ces cliniques, carrément, tous les choix qui doivent être présentés doivent convaincre la femme qu'elle ne doit pas se faire avorter.
Ben,
si elle veut se faire avorter, certaines d'entre elles doivent sortir de l'état dans lequel ils sont. Ce qui est épouvantable, parce qu'il n'y a aucune commune mesure. Et là-dessus, et je me souviens entre autres d'une dame qui racontait, elle, victime de viol, elle tombe enceinte à la suite de ce viol-là et on lui a fait sentir coupable dans au moins 4 cliniques et on lui a refusé, elle a dû changer, non pas l'état voisin, mais l'autre état, 2 états plus loin pour avoir un avortement issu d'un viol, ce qui est complètement innommable.
Puis en Irlande, pour revenir sur la manchette, ben les femmes irlandaises devaient carrément quitter le pays pour aller faire l'interruption de grossesse à l'extérieur, ailleurs en Europe. Donc le référendum risque de changer tout ça.
Monsieur Carly, merci beaucoup.
Bonne semaine.
Bonne semaine, bon festival de BD en passant.
Bien sûr.
11h33.